Voilà l'histoire que Monsieur Rivasson nous conta. Je vins poursuivre le reste jusqu'à leur délivrance à l'île dont nous avons été témoins oculaires. Deux jours après l'arrivée de ces messieurs dans notre cachot, on les vint prendre pour les faire monter à la chambre du Parlement. Là, ils furent interrogés légèrement. Après quoi, le président leur demanda s'ils voulaient changer de religion pour se faire bons catholiques romains. Ils n'hésitèrent pas à dire qu'ils le souhaitaient de tout leur cœur. « Eh bien, leur dit-il, on va vous faire instruire pour faire votre abjuration, après laquelle nous procéderons à votre délivrance. » On les remit après cela dans notre cachot, ravis d'aise d'avoir fait cette démarche qui, dans peu, leur promettait leur liberté et quelques récompenses de la cour pour prix de leur abjuration, comme quelques conseillers du Parlement le leur avaient fait pressentir. Ils ne cessaient de s'en féliciter en notre présence, et nous ne cessions de détester leur lâcheté et leur apostasie. Peu d'heures s'étaient écoulées depuis leur retour dans notre cachot lorsque le chapelain du Parlement y vint. Et, après avoir extrêmement loué leurs pieuses intentions, il leur mit en main un catéchisme en leur disant que leur délivrance dépendait de leur diligence à l'apprendre par cœur et pris congé d'eux. Ces messieurs étudiaient jour et nuit lorsqu'au bout de 3 jours, ils cessèrent cette étude par un contretemps fatal pour eux, car 2 huissiers du Parlement les vinrent prendre pour les conduire à la chambre criminelle. Ces huissiers leur mirent les menottes aux mains, ce qui ne nous fait rien présager de bon pour eux, mais ils ne s'en émouvaient pas, se persuadant que ce n'était qu'une formalité de justice. Ils comparurent donc devant l'Assemblée du Parlement où le président leur dit au premier début « Messieurs, il y a 3 jours que vous avez promis à cette Assemblée de faire abjuration de vos erreurs et d'embrasser la religion romaine. En conséquence, nous vous avons promis votre délivrance. Nous ne voulons pas vous abuser. Nous ne sommes plus en état de vous pouvoir délivrer. « Voilà, dit-il en leur montrant une lettre de cachet, ce qui nous en empêche. La cour nous ordonne de faire votre procès à la rigueur de l'ordonnance qui défend la sortie du royaume, et vous êtes heureux de ce qu'il ne sera fait aucune mention de votre imprudent attentat à Quévrin, où vous avez tiré un coup de pistolet sur la lettre de cachet portant ordre de vous arrêter. C'est la cause de l'ordre du roi qui nous commande de vous condamner aux galères sans faire mention dans votre procès de l'action que vous avez commise à Quévrin, car en ce cas, la punition serait plus rigoureuse. Ainsi, messieurs, que vous fassiez abjuration ou non, le roi veut que vous soyez condamnés aux galères à perpétuité. Il vous est libre, cependant, de faire votre abjuration. Nous louerons même cette pieuse action, mais nous vous déclarons qu'elle ne vous garantira pas d'aller aux galères. Pour lors, ces messieurs répondirent que, la chose étant ainsi, ils quittaient le dessein de faire abjuration. « Bon catholique !» répliqua le président, et il ordonna qu'on les remît dans leur cachot. En effet, nous vîmes revenir nos 6 devants candidats prosélytes d'un air extrêmement consterné, faisant des lamentations pitoyables et des réflexions accablantes sur leur faiblesse à tous égards. Le Parlement expédia bientôt leur procès, et dans moins de 8 jours, leur sentence leur fut lue, portant condamnation aux galères à perpétuité. Le lendemain de leur sentence, 4 archers de la maréchaussée les vinrent prendre pour les conduire à Lille, en Flandre, où la chaîne des galériens s'assemblait. C'était un bizarre et piteux spectacle de voir ces messieurs galonnés et en habits d'écarlate, emmenottés et garrottés de cordes, traverser à pied, au milieu de 4 archers, la grande ville de Tournai, où à peine pouvaient-ils se faire passage à cause de l'affluence du peuple qui s'assemblait dans les rues pour voir cette tragique décoration, car tout le monde croyait fermement que ces 2 messieurs étaient de la première noblesse de France. Ils furent donc conduits à Lille à 5 lieues de Tournai, dans cet équipage et à pied. On les conduisit à l'affreux cachot des galériens à la tour de Saint-Pierre. Je ferai la description de cette effroyable demeure en son temps. Cependant, ces messieurs n'y restèrent pas longtemps. Les jésuites de Lille, comme ses pères savent tout, les y firent visiter, et leur ayant demandé s'ils voulaient se faire catholiques romains, et qu'en ce cas ils obtiendraient leur grâce de la cour, ils y opèrent d'abord. Sur quoi les jésuites prièrent le grand prévôt de Lille, qui est à la direction des galériens, de leur livrer ces messieurs dans leur couvent pour les y instruire et y faire leur abjuration solennelle. Lui restant garant qu'après cette cérémonie, il les leur relivrerait dans la prison. Le grand prévôt y acquiesça volontiers. Voilà donc ces âmes tièdes et faibles retombées dans leur apostasie. Ils furent 3 semaines chez les jésuites. Ces pères, après les avoir instruits dans les principes de la religion romaine et leur avoir fait proférer les plus horribles blasphèmes contre la religion réformée et les plus affreuses imprécations contre Calvin et sa doctrine, leur firent faire une abjuration publique et des plus pompeuses, y ayant invité l'état-major de Lille et toutes les personnes de considération de cette ville-là. Après quoi, ils les remirent dans la prison du grand prévôt, non dans le cachot des galériens, mais dans une chambre commode et bien garnie, à 6 pistoles par mois avec la nourriture, le tout aux dépens des jésuites, ou plutôt à ceux des gens de distinction de la ville, chez qui ses bons pères firent une collecte pour cet effet. Après quoi, ils sollicitèrent la grâce de ces messieurs en cour, croyant l'avoir de haute lutte. Mais ils furent trompés en cela, car le roi la refusa tout net, et prétendit que leur sentence fut exécutée à toute rigueur. Les jésuites n'en demeurèrent pas là. Ils remuèrent ciel et terre pour obtenir cette grâce. Leurs sollicitations parvinrent jusqu'à Madame de Maintenon. Ils exagérèrent à cette dame que ces messieurs étaient d'une des meilleures noblesses du Périgord, que l'action de Quévrin, qui tenait si fort au cœur du roi, et était plutôt un coup d'étourdi et de jeunesse, qu'un dessein prémédité de déplaire à sa majesté, et qu'enfin ces deux messieurs étaient les deux meilleurs catholiques de France. Cette dame, persuadée ainsi par les jésuites, demanda leur grâce au roi qui la lui accorda avec un brevet de lieutenant d'infanterie pour Rivasson et un autre de lieutenant de dragon pour Sorbier. Mais en même temps, avec cette restriction contre ce dernier qu'il tiendrait prison 6 semaines après la grâce et pour l'autre qu'il serait délivré sur le champ. Il paraît ici que le plus coupable était le mieux récompensé, car une lieutenance de dragon vaut mieux qu'une d'infanterie. Mais peut-être que le roi considérait la hardiesse de Sorbier convenable au dragon. Du moins, c'est le jugement qu'on en faisait à Lille. Rivasson t'accompagnait à son ami Sorbier pendant les 6 semaines de sa prison, quoiqu'il lui fit libre de sortir quand il voudrait. Mais il voulut donner cette marque de générosité à son ami, ce qui le fit louer et approuver de tout le monde. Après les 6 semaines expirées, ils furent élargis, visitèrent leurs amis et bienfaiteurs et partirent pour leur régiment. Depuis, nous apprîmes qu'ils avaient été tués tous les deux à la bataille de Écureuil. Voilà la fin de ces deux messieurs, qui, à mon avis, n'a rien de glorieux pour eux que d'être morts au lit d'honneur. Les gens d'esprit et de pénétration qui liront cette histoire, ils trouveront de quoi faire des réflexions justes et utiles, en considérant la conduite de messieurs Rivasson et Sorbier, et les jugements de Dieu, qui punit tôt ou tard les crimes scandaleux, principalement celui de l'apostasie, qui est le plus atroce de tous ceux que l'on commet contre la divinité. Pour moi, je me contente d'écrire les faits naïvement et avec vérité, laissant à chacun de ceux qui liront ces mémoires apporter leur jugement tel qu'il leur plaira. Je reprends le fil de ma narration, pour ce qui regarde mon cher compagnon de souffrance et moi. Sorbier et Rivasson nous empêchèrent de mourir de faim, comme je l'ai déjà dit. Nous savions qu'ils avaient beaucoup d'argent, et la crainte où nous étions de retomber dans la famine après leur départ fit que je les suppliais à main jointe de nous laisser 3 ou 4 louis d'or. Je leur dis que je leur en ferais mon billet pour que mon père les payât à leur ordre à Bergerac. Mais ils furent si durs qu'ils ne voulurent jamais nous laisser qu'un 1 demi-louis d'or, que je leur ai rendu dans la suite lorsque nous nous rencontrâmes dans les prisons de Lille, en Flandre, peu de jours avant leur délivrance. Nous ménageâmes ce 1 demi-louis d'or extrêmement, ne mangeant que notre réfection de pain sans autre pitance. Nous n'eûmes cependant pas le temps de le dépenser dans cette prison du Parlement, parce qu'on nous transféra dans la prison de la ville nommée Le Beffroi, et voici pourquoi. Il faut savoir que la rivière de l'Escaut traverse la ville de Tournai. Au côté du sud de la dite rivière est bâti le Parlement, et ce côté-là dépend de l'archevêché de Cambrai, et l'autre partie de la ville, au nord de la rivière, dépend de l'évêque de la dite ville de Tournai. J'ai déjà dit que le curé de la paroisse du Parlement venait quelquefois nous visiter, plutôt pour voir si nous changions nos sentiments par rapport à la religion que pour nous exhorter par de bonnes raisons à en changer. L'évêque de Tournai, ayant appris la froideur, ou plutôt la négligence ou l'ignorance de ce curé à nous convertir, nous envoya visiter par un de ses chapelains. Ce chapelain était un bon vieil ecclésiastique qui avait plus de bonne foi que de théologie, du moins nous le témoigna-t-il, car après avoir dit qu'il venait de la part de Monseigneur l'évêque, il poursuivait ainsi. « Pour vous convertir à la religion chrétienne. » Nous répliquâmes que nous étions chrétiens par le baptême et par notre foi à l'évangile de Jésus-Christ. « Comment, nous dit-il, vous êtes chrétiens? Et comment vous nommez-vous » En sortant de sa poche, ses tablettes où nos noms étaient écrits et craignant de s'être mépris, nous lui dîmes nos noms et surnoms. « C'est bien vous, nous dit-il, à qui je suis adressé. Mais vous n'êtes pas ce que je croyais, car vous dites que vous êtes chrétien, et mon Seigneur m'envoie pour vous convertir au christianisme. Récitez-moi, s'il vous plaît, les articles de votre foi. » « Très volontiers, monsieur, lui dis-je, et en même temps, je lui dis le symbole des apôtres. « Comment, s'écria-t-il, vous croyez cela ?» Et lui ayant dit que oui, « Et moi aussi, nous répondit-il. » Monseigneur l'évêque m'a vendu du poisson d'avril pour se moquer de moi. Ce jour-là, en effet, était le 1er d'avril de l'année 1701. Il prit congé de nous fort promptement, outré de dépit que son évêque eût ainsi joué un homme de son âge et de son caractère. On peut juger si ce bon ecclésiastique avait étudié et examiné les différentes sectes du christianisme. Quoi qu'il en soit, nous ne le vîmes plus. Mais le lendemain, l'évêque nous envoya son grand vicaire nommé M. Régnier. Pour celui-là, c'était un autre théologien que le bon vieux chapelain. Cependant, il nous trouva mieux instruits sur les preuves de la religion réformée et sur les erreurs de l'Église romaine qui ne s'y étaient attendues. C'est pourquoi il prit plus à cœur de venir à bout, comme il le disait, de nous convertir. Il ne se passait guère de jour qu'il ne nous rendît visite. C'était un fort rhétoricien, plein de sophismes, ne voulant jamais controverser que sur la tradition et non sur l'Écriture sainte. Cette diversité ne pouvait rien faire conclure, ce qui faisait qu'il se retirait toujours aussi avancé qu'il était entré. C'était d'ailleurs un très honnête homme, plein de probité et de charité chrétienne. Je me souviens que, s'étant aperçu que nous étions en nécessité de linge et de vêtements, et que même il nous manquait le nécessaire à la nourriture, il nous fit donner secrètement du linge, sans vouloir que nous sussions que cela venait de sa part, et, étant dans la semaine sainte, dans laquelle l'évêque fait ses charités aux prisonniers, le dit grand vicaire vint dans la prison du Parlement et, visitant tous les prisonniers qui y étaient en grand nombre, il leur donna à chacun 2 escalins de permission de la part de l'évêque. Il se rendit ensuite dans notre cachot, et après nous avoir prié de la part de l'évêque d'accepter sa générosité comme une marque d'estime et de distinction, il nous fit présent de 4 louis d'or et de 20 livres pièces. Nous faisions quelques difficultés de les accepter, mais il nous pria de si bonne grâce de les prendre, en nous représentant que Monseigneur regarderait notre refus comme une marque d'orgueil, qu'il nous fut impossible de le refuser, ce qui nous vint à la vérité fort à propos pour nous aider dans notre grande nécessité. J'ai déjà dit que quelquefois le curé de la paroisse du Parlement nous venait visiter. Un jour, il trouva avec nous le grand vicaire. Il le choqua d'abord, lui demandant qu'il le faisait si hardi de venir dans sa paroisse et faire des fonctions qui n'appartenaient qu'à lui, curé du dit lieu. Le grand vicaire lui répondit fort modestement qu'il y venait par les mêmes raisons que lui, pour ramener les brebis égarées dans le bercail du Seigneur. « Je les y ramènerai bien sans vous, » lui répondit brusquement le curé, « et Monseigneur de Cambrai ne souffrira pas que vous empiétiez sur ses droits dans son diocèse, et je vous ordonne de sa part de sortir d'ici pour n'y plus rentrer. » Le grand vicaire sortit en effet et n'y revint plus, mais ayant fait son rapport à son évêque, et l'évêque ne voulant pas avoir le démenti de nous faire visiter, pria le procureur général du Parlement de nous faire transférer dans les prisons de la ville qui étaient de son diocèse, ce qui lui fit accorder l'abord. Nous voilà donc aux prisons du Beffroi, où nous étions infiniment mieux qu'à celles du Parlement. Plusieurs protestants, notables bourgeois de Tournai, avaient la permission de nous venir visiter. Ils graissaient la patte, comme on dit, aux geôliers qui, à leur sollicitation, nous ouvraient tous les matins notre cachot pour nous faire prendre l'air dans une petite cour tout proche pendant quelques heures et bien souvent jusqu'au soir. Là, nos zélés amis nous venaient voir souvent, nous consolant de leur mieux et nous exhortant à la persévérance. Le grand vicaire régnait les y trouvait souvent, sans jamais s'en être formalisé. Au contraire, il leur faisait civilité. Et lorsque par respect ces personnes charitables voulaient se retirer, il les priait instamment et très humainement de rester et d'entendre notre conversation. Et j'ose dire que ces bons protestants étaient ravis d'entendre la manière dont nous nous défendions dans ces controverses, comme aussi de la douceur et de la bénignité avec laquelle ce grand vicaire nous exposait ses prétendues preuves. Souvent, après une heure ou deux de disputes qui ne concluaient jamais rien, il faisait apporter une bouteille de vin et nous la buvions ensemble, comme de bons amis, sans parler de religion. Enfin, après avoir controversé sur tous les points que nous prétendions lui prouver être des erreurs dans la religion humaine, il nous proposa un plan de conversion pour abréger toute dispute. Le voici. « Nous vous dispenserons, nous dit-il, de croire la majeure partie des points qui vous semblent erreurs, comme la vocation des saints et de la Vierge, la déférence pour les images, de croire qu'il y a un purgatoire, ni d'avoir la foi pour les indulgences et les pèlerinages, moyennant que vous vous soumettiez à croire de bonne foi la transsubstantiation et le sacrifice de la messe, et que vous abjuriez les erreurs de Calvin. » Mais nous lui fîmes connaître que nous voyions le pas glissant qu'il nous proposait et que nous n'en serions pas dupes. Après cela, il diminua peu à peu ses visites, si bien qu'il ne nous venait voir que de 8 en 15 jours, et enfin il nous laissa tout à fait en repos, et depuis, pas un prêtre ni moine ne nous vint accommoder, ce qui nous faisait grand plaisir. Un jour, sur les 9 heures du matin, nous vîmes entrer dans notre cachot 5 personnes que le geôlier y vint mettre et puis se retira. Nous nous mîmes à nous regarder les uns les autres tellement que nous reconnûmes 3 de ces messieurs pour être de Bergerac, mais nous ne connaissions pas les 2 autres, qui fondaient en larmes en nous embrassant de même que les 3 premiers, et ces 2 nous nommaient et témoignaient nous connaître intimement. Surpris de ne pas connaître 2 personnes qui ne cessaient de nous embrasser et de pleurer sur notre état aussi bien que sur le leur, et qui d'ailleurs étaient accompagnées des 3 que nous connaissions, nous demandâmes au sieur Dupuis, qui était l'un des 3, qui étaient ces 2 personnes à nous inconnues. « C'est, nous dit-il, l'une mademoiselle Madras et l'autre mademoiselle Conseil de Bergerac, vos bonnes amies, qui se sont exposées au périlleux voyage de sortir de France avec nous, sous les habits d'hommes que vous leur voyez, et qui ont résisté à la fatigue de ce pénible voyage à pied avec une fermeté et une conscience extraordinaires pour des personnes élevées avec délicatesse, et qui, avant ce voyage, n'auraient pu faire une lieue à pied. Nous saluâmes ces deux demoiselles et leur représentâmes qui n'étaient pas de la bienséance, qu'ils restassent ainsi déguisés et demeurassent avec 5 garçons dans le même cachot, que nos ennemis nous en feraient, et à elles, un crime scandaleux. Je les priai de permettre que j'avertisse le geôlier de leur déguisement, qui aussi bien ne leur servait de rien à présent, qu'il fallait déclarer leur nom et leur sexe, et confesser la vérité avec fermeté et constance. Ces messieurs furent de mon avis, et les demoiselles y acquiescèrent. J'appelai le geôlier, et lui ayant dit de quoi il s'agissait, il fit sortir ses filles de notre cachot, les mit dans une chambre particulière, et en avertit le juge, qui leur fit donner les habits convenables à leur sexe, et depuis, nous ne les avons pas revues, car elles furent condamnées pour le reste de leur jour au couvent des repentis à Paris, où elles furent conduites dans le temps qu'on condamna aux galères leurs 3 compagnons de souffrance pour avoir voulu sortir du royaume. Après nos plaintes et lamentations avec ces 3 messieurs, nommés les sieurs Dupuis, Mouret et Lavenu, nous les priâmes de nous raconter leur histoire. Le sieur Dupuis s'en acquitta de cette manière.